Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
J'avais oublié.
Donc pour vous expliquer un petit peu notre popote, hein, mais vraiment on prend 3 minutes avant de se parler, avant d'enregistrer pour s'expliquer un petit peu ce dont on va parler. Et en fait, entre le moment où j'ai commencé et le moment où on a terminé, Maud a dit, mais de quoi on parle déjà? Ah oui, du succès, c'est
ah
vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que ça, c'est compliqué. Hein.
Ah oui, c'est compliqué. Ce...
C'est compliqué pour toi le succès?
Bah oui.
Ok.
Parce que, bah, on va en parler dans cet épisode, mais c'est quoi le succès? À partir de quand, je n'ai pas envie d'en faire une question philosophique, genre c'est quoi le succès, mais c'est plutôt à partir de quand tu te dis c'est cool.
Déjà, c'est quoi pour toi le succès? Parce que pour moi, une question philosophique, ça t'enlève de l'équation. C'est quoi pour toi?
Oui, c'est ça. C'est quoi pour toi? À partir de quand t'es content? Et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec mon éditrice, ma jeune éditrice Constance. On revenait de la soirée Elle, du magazine Elle, une soirée littéraire, bref, et on rentre à pied parce qu'on trouve pas de taxi, et on marche le long de la Seine et on discute longuement, et je lui dis, donc mon livre est sorti depuis, tu vois, 6 mois, 8 mois, et je lui dis, mais donc vous êtes content à l'Icono et tout? Et elle dit, bah...
L'Icono, c'est ta maison d'édition.
Ah oui, l'Iconoclaste. Et elle me dit, bah oui, enfin, elle comprenait pas trop ma question. Et je lui dis, mais vous considérez que c'est un succès, quoi? Et elle me dit, bah oui. Enfin, elle comprenait pas ma question. Et en fait, ce que je lui ai dit, et moi-même, je comprenais pas bien ma question, et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que, en fait, pendant longtemps dans ma vie, j'étais plus sur le mode des concours. C'est-à-dire que j'ai fait une classe prépa. Par exemple, je prépare à HEC.
T'étais une bonne élève avant ça?
Oui.
À l'école?
Oui, j'étais une bonne élève. Mais il y a quelque chose dans le système des concours qui m'a profondément marquée. C'est pas un concours, le bac. Tu vois, c'est un examen. Le concours, c'est t'as un nombre de places et tu l'as ou tu l'as pas. Et donc, il y avait cette sanction de je prépare l'entrée pour l'ENS, par exemple. Il y a tant de places en philo, on va dire il y a 15 places en philo. Est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Si je l'ai pas, je pleure, je suis triste, mais je m'en remets. Si je l'ai, j'ouvre le champagne. Et il y a vraiment une liste qui est publiée, ils proclament les résultats. Hop, Maud Ventura, elle est sur la liste, j'ai réussi, j'ai eu mon concours, j'ai réussi mon année, j'ai réussi mon concours, parce que mon but c'était d'avoir le NES, c'était d'avoir HEC, c'était d'avoir ci, ça, et ma liste est de... Et je suis dans la liste. Je voulais avoir, je sais pas, le barreau, je l'ai eu. Et donc, il y avait ce côté, pendant longtemps, où pour moi le succès c'était clair, où j'ai eu des grandes défaites, et j'ai eu des grands succès, et mes succès, je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est un succès? Parce que bah, il y avait mon nom sur la liste. Et mon but, c'était d'avoir mon nom sur la liste. Et donc là, champagne. Et donc, je marche avec Constance le long de la Seine, à Paris. Et je me rends compte qu'il n'y a personne là qui va donner mon nom dans la liste et dire, bah, c'est bon, Maud, bravo. Ton premier roman, bah, c'est réussi. Voilà, c'est un succès. Félicitations. Hein. Tu peux ouvrir le champagne. Et puis, bah, ça y est, c'est bon.
Sérieux?
Bah oui.
Mais il n'y a pas plein d'étapes où tu peux te dire à chaque fois, c'est un succès? Alors, pour avoir... Moi, publié un bouquin il y a fort longtemps, le jour où le truc a été traduit en espagnol, par exemple, j'étais là, succès, trop bien. Le jour où on a vendu les droits à une maison d'édition en poche, trop bien, succès. Enfin, tu vois, il y a plein de cases à cocher que plein d'auteurs et d'autrices ne cocheront jamais dans leur vie.
Oui.
Le fait de se faire... T'as été traduit dans combien de langues?
10
Excusez-moi. Je rappelle que cette personne qui est en face de moi, donc, son bouquin sort... cet été aux États-Unis et que, excusez-moi, Madame Oprah Winfrey l'a chroniqué dans son book club. Qu'est-ce que tu vas faire?
Ben, justement, ouais. C'est une super nouvelle.
Ça, pour toi, c'est pas un succès?
Non, mais c'est... ben oui, mais tu peux rire. Mais non, mais oui, tu peux en rire, mais c'est un vrai sujet. C'est okay. Que pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a jamais où on me dit c'est bon, c'est un succès, tu poses le micro, tu vas aux Seychelles et puis tu fais la fête, c'est bon. Ça ne s'arrête jamais. Et en fait, c'est un succès graduel. Parce que tu as 10 langues, mais évidemment, à côté, tu as Valérie Perrin, où c'est 30 langues. Puis Valérie Perrin, elle regarde Marc Lévy, puis c'est 50 langues. Et du coup, Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours plus.
Ok, mais à ce moment-là, pour le concours, c'est pareil. C'est-à-dire que...
Non.
Si,
t'as le NS, t'as le NS.
Mais t'as une place dans le concours. Sérieux, t'as une place, t'as toujours un classement.
Oui, mais tu t'en fiches parce que quand t'as intégré HEC, moi j'ai fait, enfin quand je suis arrivée à HEC, personne m'a demandé, t'étais combientième sur la liste d'entrée à HEC. Okay. Soit t'as eu ton concours, soit tu l'as pas eu.
Et donc tu te comparais pas aux autres ?
Bah non. Enfin.
Et là tu te compares ?
Ben, il y a cette tentation. Je dis pas que je le fais, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très noir et blanc dans un concours. Alors c'est très critiquable pour plein de raisons, mais il y a quelque chose d'assez simple dans la vision de.
Tu l'as ou tu l'as pas ?
Tu l'as ou tu l'as pas. Le livre, et dans plein d'autres domaines, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas. C'est que il y a plein de choses super, tu coches plein de cases, mais il n'y a pas un moment où le 13 juillet 2013, paf, j'apprends que j'ai intégré le NS. Mmh. Donc le 14 juillet 2013, je fais la fête, c'est les vacances, je ne fais plus rien pendant 2 mois, et je célèbre ma victoire, j'ai passé 3 ans en prépa, j'ai intégré, je suis contente, point final. J'ai réussi ce que je m'étais fixé. Là, il n'y a aucun moment où c'est fini. Il y a plein de victoires sur le chemin. Donc, il y a le prix du premier roman, il y a la... Je sais pas, je suis finaliste du prix Médicis, il y a les droits qui se vendent. Non, mais il y a des gros succès, je ne les remets pas du tout en question.
Non, c'est juste ta perception à toi du succès.
C'est ça. Mais Et donc, il y a vraiment ce moment où je demande à Constance, mais alors, vous êtes content ? Elle dit, ben oui. Elle dit, mais oui, mais c'est incroyable, mais elle comprenait pas que je comprenais pas. Mais ouais, c'est pas si facile de se dire, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Parce que tu vois toujours ce que t'as pas, tu vois toujours que tu pourrais faire plus, que tu pourrais faire mieux, que ça pourrait mieux se passer. Et donc,
t'es pas fixé des achievements dans ta tête, tu vois, de te dire, putain, le jour où j'ai ça en tant qu'autrice, c'est cool, quoi.
Je m'étais dit quand même, le jour où je peux vivre de l'écriture, c'est incroyable.
Tu peux vendre, ou tu peux, ou tu peux payer tes factures.
Oui,
excusez-moi.
On ne dit pas vivre de. Je suis tout à fait d'accord.
Attention à ça.
Le jour où je peux gagner ma vie. Non, tu ne peux pas dire ça. Le jour où je peux payer mes factures, mon emprunt, mes dettes, tout l'argent dont j'ai besoin pour vivre, je peux le gagner grâce à mon activité d'autrice. C'est un succès.
Ok. Petit point contexte, mais en gros, je reprends mode parce que dans mon podcast Histoire d'argent, j'essaie de déconstruire justement cette fameuse expression qui est gagner sa vie, qui signifie, parce que vous gagnez de l'argent en fait, qui signifie que si vous en avez plus, vous allez perdre votre vie. Ce qui est quand même ouf.
Oui, mais je trouve quand même que c'est une expression qui veut dire gagner sa vie dans le langage courant, c'est aussi... Quelle est l'activité qui te rapporte de l'argent ?
Mais tu viens projeter un truc sur l'argent, et moi je déteste ça, et je ne veux plus ça. Et je veux que les gens arrêtent de faire ça, et qu'ils prennent juste de l'argent comme de l'argent, parce qu'en gros, votre vie à vous, c'est votre vie, et en fait, elle vaut, parce que vous êtes né, et que vous êtes sur cette planète, et qu'elle n'a strictement rien à voir, en termes de valeur, avec un quelconque salaire, ou un quelconque... montant de droits d'auteur pour les gens qui gagnent leur vie grâce aux droits d'auteur.
Tout à fait. Donc, il y a eu des succès. Mais j'imagine que c'est le cas pour plein de personnes. Et je pense souvent, tu vois, aux actrices à succès. Et j'en parlais avec une ancienne collègue, Sarah, si tu m'écoutes. Et on parlait de... je crois qu'on parlait un midi de Virginie Efira. Et elle me disait, oh là là, mais qu'est-ce que doit penser Virginie Efira ? Et moi, je ne connais absolument pas Virginie Efira, donc je vais encore lui mettre des mots dans sa bouche, comme j'ai fait avec Danny Boone, que je ne connais pas plus. Mais peut-être que Virginie Efira aussi, elle se dit pas « Oh là là, je suis une actrice à succès, qu'est-ce que j'ai du succès ?» Elle se dit « Ah, j'ai pas eu mon César pour tel truc. Ah bah, je voulais tel rôle, je l'ai pas eu. Ah bah, là, je vois que tel genre de rôle, on me les propose plus, parce que je suis telle catégorisée comme ci, comme ça. » Et ah bah voilà, on a pris Leïla Bekti pour ce rôle, j'en sais rien, peut-être que pas du tout, et elle a réussi, elle a profité de ses succès et est très sereine, et je lui souhaite.
Virginie Efira, excuse-moi, mais elle a commencé par La Nouvelle Star, pour moi déjà elle était déjà au firmament, avant même de rentrer
C'est vrai, elle a commencé
déjà
tout
au top du top.
Mais voilà, tout ça pour dire que le succès c'est aussi une manière de le percevoir, et qu'il y a plein de carrières pour lesquelles il n'y a pas de fin, il n'y a pas de... gagné, perdu, il n'y a pas ton nom sur la liste et puis tu as réussi, point. Ton concours, c'est beaucoup plus long que ça et beaucoup plus tortueux et je suis persuadée, si c'est pas Virginie, c'en est une autre, qu'il y a des gens au sommet, de
Bien
mon
sûr,
point de vue,
toujours.
Qui considèrent pas du tout qu'ils ont réussi.
Mmh. Virginie Efira, entre parenthèses, qui ferait un super rôle pour jouer dans Mon mari, hein, si je puis me permettre, au cinéma. Elle aurait tout à fait le style.
Tout à fait.
Même si elle joue dans environ tous les films. Je t'adore Virginie, mais vraiment, la production française, parfois. Est-ce qu'il y a d'autres actrices?
Non, il n'y a que Virginie, on l'aime.
Mais ceci dit, elle est canon, je l'adore. Vraiment.
On adore.
Okay.
Toi, alors, tu t'es dit succès, bravo, parce que tu me fais des gros yeux en mode « Oh là là, bah, la fille, son livre, il marche bien, oh là là, elle n'est pas consciente de son succès. »
Mais tu
Est-ce que toi, tu étais plus conscient que ça?
Mais non, mais en fait, aujourd'hui, je le regrette de ne pas en avoir plus profité sur le chemin, tu vois. Où je crois que la première fois où je me suis vraiment dit « Ok, là, c'est vraiment un truc et c'est assez ouf », c'était en 2014, lors de la toute première grosse stuff qu'on a fait, parce que Mademoiselle organisait des soirées d'abord au Bataclan, puis après à la Bellevilloise pendant des années, où il y avait 1000, 1200 personnes, enfin c'était énorme. Et je me souviens très bien, genre à 2h du mat, en plus c'est soirée déguisée, donc c'était incroyable, les gens étaient déguisés de ouf, c'était complètement taré. La première, elle était folle, c'était le super-héros. Vraiment, tout le monde était déguisé, c'était fou. Un peu moins par la suite, ça a un peu moins pris, mais... Et je me souviens très bien de monter donc 2014 dans les au balcon en fait du Bataclan et de regarder cette foule en fait et de me dire waouh, en fait 10 piges ou presque pour en arriver là et d'avoir de réunir tous ces gens, de réunir tout ce monde et de faire une belle soirée, une belle fête, un truc collectif où tout le monde s'amuse, où il y a une vraie grosse teuf. Je m'étais dit ça valait la peine franchement. Mais tu vois, avant ça, je crois que j'ai peut-être eu ce truc. Mais tu sais, il y avait des... C'est pareil, il y avait des... Genre un peu des milestones, quoi, tu vois, des moments clés où j'ai ouvert les bureaux à Paris, tu vois, où c'était un vrai truc. Et bien sûr, le tout premier, c'est déjà quand tu lances le site le premier jour, c'est incroyable, tu vois. Tu te dis, ok, ça y est, le truc, il est live. J'avais bossé dessus pendant 4-5 mois. C'était incroyable. Mais tu vois, ouais, les bureaux à Paris 2011-2012, où là j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps des souvenirs Facebook, tu sais, qui me repopent à la gueule, où quelques mois avant je cherchais des bureaux. Enfin, je me souviens très bien de tout ce moment où ça a été un peu compliqué, chercher des bureaux. En fait, à partir du moment où il y a eu des bureaux, très vite il y avait trop de monde dans les bureaux, donc il a fallu trouver d'autres bureaux. Bref, c'était un délire. Mais ouais, ça, par exemple, tu vois, les bureaux, il y avait un vrai truc de concret, quoi. Moi, je faisais en sorte de fêter, mais sans doute pas assez, les caps passés en termes d'audience, tu vois. Donc, je me souviens très bien que pendant des plombes, le site, l'audience, comment dire, oscillait entre 900 000 et 1 million de visiteurs par mois, tu vois, sur 30 jours. Et je me souviens très bien qu'on était vraiment à 995 000 et qu'en gros, le jour d'après, si on faisait pas 5 000 de plus que le jour correspondant à 30 jours auparavant, bah en fait, on n'arriverait pas. Et j'avais fait tout un cirque sur les réseaux sociaux et tout à l'époque sur Facebook. C'était vraiment les débuts de Facebook, hein, où j'avais dit à tout le monde, s'il vous plaît, dites à tout le monde de venir au moins faire une visite pour qu'il y ait le million. Je vous promets que si on arrive à 1 million, je vous fais une danse. Et en fait, bien sûr, c'est arrivé à 1 million et j'ai une vidéo où je suis en train de faire une danse dans mon salon à minuit et demi parce qu'en fait, j'ai découvert que ça faisait 1 million. Tu vois, ça typiquement... alors certes, j'étais tout seul, tu vois, dans mon salon. Et en même temps, c'était cool parce que j'avais pas l'impression d'être tout seul parce que je le filmais, je le partageais sur Internet. Ça, tu vois, ça fait partie des trucs où je me suis dit « well done », quoi, tu vois, bien joué. Et pour moi, c'était plutôt les caps d'audience qui étaient des vrais, vrais trucs. Après, des caps d'audience, ça passe pas tous les jours, hein, tu vois. Ouais. Et surtout sur la fin, où on était entre 6 et 7 millions de visites par mois, si tu veux, c'est dur d'aller au-dessus, quoi, tu vois, de passer de 6 à 10, c'est un délire, quoi. Mais ouais, tu vois, je te regardais avec des gros yeux parce que je me dis qu'en fait, avec le recul, j'aurais dû beaucoup plus célébrer les victoires et les moments parce que c'est ça qui te permet, on parle de bâtir sur du long terme, tu vois, c'est ça qui te permet de bâtir sur du long terme parce que quoi qu'il arrive, le film, tu te le fais dans ta tête. C'est-à-dire que tu décides pour toi si c'est un succès ou pas. C'est
Bien sûr.
C'est pas juste.
Mais c'est ça, c'est toi qui décides.
C'est toi qui décides dans ta tête.
Il y a personne qui te dit ça y est, bravo, ouais. Vous avez réussi.
Ouais. Et
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais.
Oui, bien sûr. Ou alors, si, bah, tu vois, t'as 100 000 exemplaires. Tu les as... Je sais pas comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a un mail qui est tombé de ta maison d'édition pour dire bravo, on a passé les 100 000 lecteurs en France ?
Non.
Comment tu le sais alors ?
Parce que au moment de la sortie poche, on a créé la campagne et j'ai dû demander, ah d'ailleurs, en fait, aussi, là tu me vois venir, oh là là, je connais ce regard. En fait, je ne voulais pas connaître les chiffres pendant longtemps.
Incroyable.
Voilà, évidemment.
Pourquoi ?
Parce que je ne voulais pas y penser. Et je voulais pas toutes les semaines demander mes GFK, comme on dit dans le milieu, donc demander mes ventes semaine. Et donc, c'était une manière de me protéger, parce que je voulais pas me dire « Ah, oh, on en a vendu 10 000 cette semaine, ah, oh, la semaine d'après, on en a vendu que 6 000, imagine la semaine suivante, on en vend que 4 000. » Et enfin, je voulais pas y penser,
okay.
En fait. Et c'est une manière de me protéger, hein, tout simplement. Donc, je voulais pas vraiment connaître les chiffres, donc j'ai dit plutôt me... Ils ont senti, je pense, qu'ils s'adaptent vraiment à chaque auteur. Ils sentaient que moi, c'était plutôt du genre « don't ask, don't tell ». Genre, je demanderai quand j'aurai envie de savoir. Et là, c'est un peu la même chose sur les poches, où je demande pas trop. Et de temps en temps, j'ai l'info parce que j'ai croisé par hasard à la gare la responsable des relations aux librairies qui s'appelle Alexandra, que j'embrasse, et on s'est croisé totalement par hasard à la gare de Lille d'ailleurs, où je rentrais d'une rencontre en librairie. Bref, on se retrouve sur le parvis, elle était là, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis en mode, c'est toi qui as pris mon billet de train. C'est toi qui as pris mon billet de train, donc t'es au courant. Et elle était là, mais oui, j'avais totalement oublié que c'était en même temps que nous, on était à Lille. Bref, et elle me dit, tu connais tes GFK pour la semaine? Et je dis, non. Elle était là, si, je peux te le dire. Et donc, elle me les a dit. Mais c'est un peu informel et c'est quand je le demande. Et donc, bref, au moment de la sortie poche, j'ai dit, mais alors, sur le grand format, on en est où? Comment vous avez communiqué dessus? Et ça, et ça, ah bah c'est super, on a passé les 100 000, donc on va pouvoir communiquer dessus. Et je suis en mode, ah super. Point.
Point.
Oui. Mais parce que j'ai pas envie de savoir et que j'ai pas envie d'y penser.
Mais une fois qu'on te dit que t'as 100 000, c'est trop bien de dire, putain, trop bien, quoi, c'est ouf. J'ai limite envie d'aller t'acheter une bouteille de champagne et que ce soir, après avoir terminé cet enregistrement, on va boire une coupe de champagne ensemble. Hein. C'est dur pour toi à ce point-là?
Mais dur, ça veut dire quoi dur?
Bah, je te vois là, t'es toute coincée.
Mais non, mais c'est...
T'es beaucoup plus coincée que quand tu parles de plein d'autres trucs.
Ouais, parce que ouais, je suis pas à l'aise avec ce sujet. J'arrive pas à je trouve ça chouette. Mais en fait, ce qui est délicat pour moi, c'est que c'est le succès de mon premier... Et contrairement à une boîte, peut-être, où tu crées ta boîte, elle grossit, moi, j'ai l'impression que je vais, et c'est pas une impression, devoir remettre mon titre en jeu à chaque parution.
Ben, mais moi, c'est pareil, tous les jours. Tous les jours, Mademoiselle, on remettait notre titre en jeu. Parce qu'en fait, tous les jours, on pouvait écrire de la merde.
Oui, mais t'avais bâti un truc. Oui, après, c'est peut-être pareil.
C'est pareil, toi, t'es en train de bâtir un truc de ouf. T'as une commu de gens qui t'envoient des Insta, des trucs Insta pour te dire qu'ils sont en train de lire leur bouquin. C'est complètement taré.
Oui, c'est vrai.
Ton bouquin, pardon.
C'est vrai. Mais
et surtout, ouais. Moi, je vois ce que t'as monté comme un capital aussi. Un capital de plein de choses, tu vois. Un capital où bah, t'as plein de gens qui ont ton livre quelque part dans leur bibliothèque. Ou qui vont lire ton livre en poche cet été sur la plage et dans lequel tu vas rentrer dans leur cerveau à ces gens-là. C'est complètement taré. C'est incroyable.
Oui.
Tu vas leur faire vivre un moment canon, quoi. Moi, j'ai lu le bouquin, il est canon, je vous le dis.
C'est gentil.
Non, mais vraiment, je le pense. Où t'as... mais c'est pareil, en fait. Tu vois, on parlait des droits d'auteur. On va parler très rapidement de l'argent, mais je t'ai dit vas-y, viens, on parle de l'argent, et t'as fait non, je ne veux pas parler d'argent.
Non.
Pourquoi?
Parce que je suis pas à l'aise avec ce sujet du tout.
Alors que t'adores histoire d'argent.
Bah, c'est mon podcast préféré, mais je pense qu'il y a un lien, il y aurait quelque chose à creuser, bien sûr. C'est
Allez,
pas
écoutez mon podcast histoire d'argent, il
c'est
est super.
C'est un super podcast, c'est vraiment mon podcast préféré. Bah non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Je suis flattée. Mais, ok. Donc t'as pas envie d'en parler plus que ça?
Non.
Parce qu'aujourd'hui, quand t'as vendu 100 000 bouquins, c'est pas mal d'argent.
Oui.
C'est beaucoup d'argent.
Oui.
On peut le dire aux gens qui le savent pas.
Oui.
Elle a un grand sourire, elle est là, elle est toute gênée.
Oui.
Ok. Et donc, ouais, je te disais, tu vois, pour moi aussi, c'est incroyable, c'est que t'es en train de créer une rente quelque part, tu vois.
Oui.
Ton bouquin, il va vivre des années.
Oui.
Ok. Moi, je continue à recevoir 60 balles par an de mon bouquin en poche. Bah, tous les ans, je me dis, c'est un resto, ça part. Grâce à mon vieux bouquin qui date d'il y a 15 ans, tu vois.
C'est vrai. Peut-être qu'un jour, ça sera un bon resto tous les ans.
Toi, je crois que tu iras un peu plus qu'un bon resto.
Non, mais sur mon mari. De bref.
Oui.
Mais non, j'ai rien à dire.
Ok.
En fait... Je pense que j'ai tellement peur, on en revient à la peur, hein, que ça se... En fait, on m'a tellement répété aussi que c'était anormal, que ça ne marche jamais comme ça pour un premier livre, et c'est vrai.
C'est qui on ?
Différentes personnes que j'ai croisées sur mon chemin et qui ont raison. En disant que c'était... J'ai défié toutes les statistiques, tu vends jamais 100 000 exemplaires de ton premier roman, ça n'arrive pas, ça n'existe pas. Et donc, il y a quelque chose un peu de contre-nature. Et j'ai tellement peur. En fait, ça a fixé comme normalité un truc tellement anormal.
Bien sûr.
Qu'on m'a dit un peu, mais attends, enfin, pour toi, en fait, sortir un livre, ça veut dire vendre les droits, ciné, oui. Théâtre, étranger, finaliste Médicis, télé, tati, tata, aller-retour à l'étranger. Enfin, toi... Publier un livre égale ça. Mais Maud, c'est pas ça la réalité. Publier un livre, dans la plupart des cas, c'est attendre le nez en l'air un article, attendre des ventes et te rendre compte que tes ventes ne décollent pas, avoir du mal à en vivre, avoir du mal à gagner de l'argent avec tes livres, à galérer, à passer inaperçu la plupart du temps, etc., etc. Et donc, il y a aussi une partie de moi qui me protège.
Ok. C'est une façon comme une autre de te dire, en fait, tant que je célèbre pas le succès de ce bouquin,
ouais.
Quelque part, je me déçois pas si jamais le suivant marche, entre guillemets, moins bien.
Ouais, je sais pas. Et puis, je sais pas comment dire ça. Tu couperas peut-être au montage. Mais... Mais c'est que c'est pas... je sais pas comment dire ça, mais ça m'intéresse pas. C'est pas la vraie vie. Ça m'intéresse pas. Ça me rend pas vraiment heureuse.
Okay.
Il y a des trucs qui me rendent vraiment heureuse pour de vrai. Genre, hier, j'étais chez mes parents et j'ai rencontré mon petit-neveu qui vient de naître, le fils de mon frère. Je peux même pas t'expliquer ma joie. J'étais heureuse. Il y avait du bonheur dans la garde de mes parents. Et vraiment... Enfin, tu vois, j'étais sincèrement heureuse. J'ai pas ressenti ce bonheur pour mon livre.
Jamais.
Bah,
ou tu t'es empêché de le ressentir.
J'en sais rien. Si, j'étais contente. Mais je veux dire, c'est pas la vraie vie pour moi. C'est pas les choses qui comptent.
Okay.
C'est pas la santé de tes proches. C'est pas passer du temps avec les gens que j'aime. Ça reste à côté. Et le bonheur de l'écriture, je l'ai maintenant en écrivant le deuxième. Ah là, j'ai des pics d'euphorie. C'est-à-dire qu'à recevoir les messages de Noah... Et faire le retour sur mon premier, la première partie de mon deuxième texte, me casser la tête, me dire est-ce que ça va être bien, écrire des passages où je me dis ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, mais là, j'ai des bouffées de joie.
Okay.
Mais là, je suis euphorique.
Okay.
Mais j'avoue, et c'est honteux de le dire peut-être, j'ai été plus heureuse d'écrire mon livre plutôt que son succès ou sa parution.
Pourquoi c'est honteux ? Pourquoi tu m'as dit peut-être on va couper ça, on va pas
couper
ça ? Mais
non, parce que c'est peut-être maladroit de dire que ça me rend pas vraiment heureuse. Enfin, que ça me rend... Ouais, si, en fait.
Bah, oui. Enfin, moi, en fait, quand tu me dis ça, je suis là, bah ok, j'entends. Ça te met moins en joie que d'écrire ou que de kiffer les yeux de tes parents qui sont devenus grands-parents, quoi.
Ouais, 100%.
Bien sûr. Oui, ça, je l'entends en plus.
Mais c'est pour ça que quand on me dit « Oh, mais c'est incroyable, mais ça va être génial, c'est incroyable !» Et je me sens un peu comme un extraterrestre d'être « Oui, c'est génial,
okay.
Mais c'est génial 7 sur 10, quoi. C'est super,
okay.
Mais c'est génial du taf, quoi. C'est pas génial de, à côté, la santé de mes parents, à côté d'autres trucs, tu vois. C'est genre, il y a quand même une hiérarchie.
Et tu te dis ça fondamentalement au fond de toi?
Ah ouais.
C'est pas un discours, tu vois, un peu pour justement limiter.
Bah peut-être que je me protège. Peut-être que je me protège, mais en tout cas, je le ressens vraiment dans mon cœur, okay. Qui est au fond du fond, c'est pas là mon vrai bonheur. Je sais pas comment dire.
Ouais, je comprends. Je comprends. Alors que, tu vois, de mon côté, pour moi, le vrai bonheur, c'était le succès de Mademoiselle. Et en fait, je sais pertinemment que j'ai mis de côté certains aspects de ma vie, et notamment l'aspect de la paternité, tu vois, parce que j'avais envie de m'épanouir dans ce truc, et que pour moi, c'était hyper important. Et j'y mettais tout mon cœur, mon envie, ma libido, etc. C'était primordial pour moi.
Marrant, mais hein. Ça l'est aussi pour moi. C'est pour ça que je te disais, il faut que tu coupes ça au montage. C'est plus parce que je sens que je dis pas exactement ce que je veux dire, parce que c'est quand même le truc le plus simple. C'est ça qui me fait me lever le matin.
Mais décrire,
c'est oui. Ça. C'est mais, pas
j'ai bien
la...
compris.
Voilà.
Pas le succès entre qui.
Ouais, ni la promo, ni ce qui se passe après et
oui.
Tout.
Oui,
mais
ça,
le c'est... fait d'écrire, oh. Ouais. Ah ouais, ça.
Ouais, j'ai compris. Ça,
voilà.
Et c'était très compréhensible
okay,
dans tout ce que tu dis.
Ok.
Tu disais, en fait, ça n'a strictement rien à voir avec le fait de me lever le matin et d'écrire des trucs et de j'ai des bouffées. T'as dit, j'ai des bouffées de.
Ok, je l'ai dit.
Chaleur.
Ouais.
Vraiment, hein.
Ouais.
Mais parlons de ton changement de job.
Ouais.
Parce que c'est un vrai truc, ça.
Ouais.
Quand on s'est rencontrés il y a un an, c'était quoi?
Je n'en ai aucune idée.
Je crois que c'était un peu avant. C'était un peu avant l'été dernier, où on a fait ton épisode d'Histoire de succès.
Oui.
T'étais encore dans ton job salarié, tu bossais chez Énergie.
Oui.
Et on s'est revus à 2-3 reprises. J'étais là. Mais pourquoi, frère, t'es encore dans ton job salarié alors que t'es en train de vendre plein de bouquins et que pourquoi tu vas pas faire de ta passion ton activité principale?
La peur et la protection.
La sécurité.
La sécurité. Il y avait aussi cette idée, mais ça va totalement décrédibiliser tout ce que je viens de dire et ça va donner des informations sur mes ressorts psychologiques de protection. C'était, je voulais pas être cette personne qui, en septembre, mon livre sort, il cartonne, au mois d'octobre, dit « Ok, je pose ma dème, c'est bon. » Je voulais être là « Non, on va prendre le temps, on verra, je veux pas prendre de décision de vie importante sur l'euphorie de ton livre s'est bien vendu pendant 2 mois. » Genre, mollo lastico, on va voir, etc. Et donc, j'ai laissé passer les mois pour laisser redescendre un peu le schmilblick et décider un peu. Et puis, ça m'a aussi aidé à prendre une distance de fou avec cette sortie. Et tout ce qui s'est passé, ben, c'est que je travaillais à temps plein. Et donc, il y avait la promo, les télés, les allers-retours, les rencontres en librairie. Enfin, c'était très, très plein. En fait, je travaillais la journée. Donc, la journée, j'étais au taf. Je ne regardais pas mon tel. Je n'étais pas sur Internet à me dire « Est-ce qu'ils ont sorti un article sur mon livre ?» Et, mais ça a donné vraiment des scènes vraiment invraisemblables où un auteur en festival me dit « Ah là là, du coup, tu dois être un peu stressé d'être contre tel livre dans telle liste. » Je suis genre « Ah, je suis contre tel livre, trop cool et tout, ça parle de quoi ?» Et t'es là, me mytho pas, d'où tu ne sais pas contre quel autre livre t'es en liste pour un prix important. Et j'étais genre « Ah non, je te jure que je sais pas. » Et t'es là « Non, je te crois pas, tu me mens.
Ouais. »
Et en fait, c'était tout à fait vrai, c'est que je n'en savais rien. Je n'avais pas regardé, la liste des gens contre qui j'étais. Enfin, voilà.
Tu savais quand même que tu étais dans ce concours.
Je savais quand même que j'étais dans cette liste de prix. Mais il y avait quand même un détachement fondamental qui a été le mien depuis le début. Parce que aussi, en tout cas c'est comme ça que j'explique, je travaillais la journée. Donc déjà, toute la journée je travaillais. Ensuite, je courais à 18h pour aller... Il y avait un taxi qui m'attendait devant le travail, qui m'emmenait gare de Lyon. Tac, j'arrivais à Lyon à 20h. Je faisais ma rencontre, etc. Je dînais avec les libraires. Puis à 23h, j'étais en mode, est-ce que je peux retourner à ma chambre d'hôtel? Parce que je suis vraiment fatiguée. J'avais le 36h. À 9h, j'étais à Paris. À 9h30, j'étais au taf, etc. Et donc, tout était assez chronométré. Je passais ma vie dans le taxi et dans le train. Et après, je jonglais pour arriver à aller au travail. Et donc, effectivement, ça laissait moins de place à lire les articles, à regarder un peu, tu vois, les trucs autour. Et donc, ça m'a mis un peu dans une bulle d'efficacité.
Ok. Ça devait être éprouvant.
J'étais une malade. Oui. C'était totalement inconscient de faire ça. C'était totalement inconscient. Et en même temps, ça m'a énormément protégée parce que, ben, quelque part, la normalité. Tu vois, la vie continue. Le matin, ma boss, Sarah, que j'embrasse, était hyper contente pour moi de mon succès et elle m'en félicitait tous les jours. Elle était, ah, c'est génial, j'ai vu pour telle liste. Puis après, elle était là, bon, t'as réservé les studios, bon, il y a qui, c'est quoi les interviews aujourd'hui ? Enfin, je veux dire, la vie continue. Donc tous mes jours de 2021 n'a pas été, ah là là, c'est génial, ton livre, il marche bien. Mon quotidien, c'était quand même autre chose. Et mon frère était devenu à ce moment-là papa pour la première fois. Et donc, il y avait aussi ce grand chamboulement dans ma famille. Mes parents qui étaient grands-parents pour la première fois. Moi qui étais tata pour la première fois. La découverte de ce petit bébé. Et donc, il y avait quand même beaucoup de choses autres dans ma vie qui se passaient. Et donc, ben ça, c'était un des aspects de ma vie. Mais ce n'était pas ma vie à temps plein. Et donc, j'ai vraiment freiné des quatre fers avant que ça devienne ma vie à temps plein. Donc, bref, les mois ont passé. Je me suis rendu compte que c'était de moins en moins tenable. Et puis aussi, j'ai pris ma décision. Ça m'a pris du temps, mais je l'ai prise. Et je me suis dit, bah, je préfère partir et quitter mon travail.
D'abord, t'as pris une pause.
Ah oui, tout à fait. J'ai fait un peu prudemment.
Petit à petit.
J'ai fait un congé sans solde de 3 mois, en gros, l'été dernier, pour pouvoir avancer sur le deuxième livre. Parce que dans l'équation, j'avais pas le temps d'écrire le deuxième. Et ça me frustrait. Ça me rendait très triste parce que j'adore écrire. Et donc, bah, la journée, j'étais soit en studio, soit en promo, soit en rencontre en librairie. Et j'étais genre, ah, et quand est-ce que j'écris le deuxième ? Donc, j'ai pris cette pause et ça a été incroyable de me lever tous les matins pour écrire. Et là, je me suis dit, ok, c'est vraiment... J'aime trop écrire. J'aime trop ça. Et donc, je le vois un peu comme un luxe que je m'offre en me disant, mon premier livre a bien marché, donc je peux m'offrir ce temps pour écrire le deuxième. Et c'est un cadeau que je me fais. Et je me dis, pfff. Il n'y a pas de plus beau cadeau. Je m'offre quelques mois pour écrire le deuxième tranquillement.
Quelques
et après, on verra.
Ah, tu sais pas si tu vas retourner dans un job salarié après ?
Ouais, peut-être. Je me laisse... j'ai pas fermé cette porte. En tout cas, je veux écrire le deuxième. Et je m'offre le cadeau de l'écrire dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire sans travailler à côté, en faisant ça à plein temps. Et ensuite, on verra. Parce que j'aimais quand même beaucoup travailler en équipe, j'aimais beaucoup mon travail dans les podcasts, donc je n'ai pas refermé cette porte.
Ouais.
Mais pour l'instant, je veux 6 mois d'écriture.
Incroyable.
Pourquoi incroyable ?
Bah parce que, bah on parlait tout à l'heure de rente, tu vois, et en fait, pour moi, en tout cas pour les années à venir, je me dis que tu as mis de côté, enfin, tu as enlevé de l'équation l'argent dans ta vie.
Oui.
Et en fait, mais après je comprends, tu vois, quand tu dis, bah, en fait, moi ça me fait kiffer de travailler en équipe et c'est un truc qui me fait bouger et que c'est trop bien. Ok, trop cool. Mais.
En tout cas, plutôt, j'ai pas statué.
Ok.
Et peut-être aussi, c'est parce que faire des petits pas, c'est plus facile que de dire, à partir de maintenant, je vais être écrivaine pendant les 50 prochaines années à temps plein et écrire des livres. Non, je me dis, là, j'écris le deuxième. Et après, on verra.
Et tu te laisses la possibilité de.
Okay. Ouais, c'est ça. Et peut-être que je reprendrai jamais travail de salarié. Ou au contraire, peut-être que je ferai des missions en freelance. Ou peut-être que pas du tout, je ferai que écrire. J'en sais rien.
Ok. T'as noté un truc ? Est-ce qu'on est jamais content de ce qu'on a ?
Bah oui.
Ou on voit toujours ce qui nous échappe ?
Bah oui. C'est ce qu'on se disait sur le succès.
Ouais. Dur, hein ?
Bah oui, quand t'en vends 10 000 exemplaires, c'est déjà énorme. Mais tu te dis, oui, mais lui, il en a vendu 20 000, puis 30 000, puis 40 000, puis t'as tel prix littéraire. Mais il y en a toujours un que t'auras pas. De toute manière. Donc tu dis, ah bah oui, mais j'ai pas eu celui-là. Ah, mais j'ai fait telle grosse télé. Oui, mais j'ai pas fait telle émission. Ah, mais j'étais invité dans tel podcast, mais pas dans tel autre. Et donc il y a quand même, c'est quand même assez tentant, ou en tout cas, je dirais, la pente est assez glissante pour ne jamais être content. Et on en revient à ma distinction avec le concours. Ou là, bah tu l'as ou tu l'as pas.
Comment faire pour kiffer, t'as écrit ?
Bah ouais.
Alors comment tu fais ?
Eh ben, j'écris. Je fais ce qui me fait kiffer, quoi.
Okay.
Je me dis, le succès m'a offert cette liberté de pouvoir écrire le deuxième dans les meilleures conditions. Bah, je le prends. J'ai mis longtemps à me le dire, hein, plus d'un an. Mais c'est ça que je m'offre. Je m'offre l'écriture du deuxième en totale tranquillité, ce qui n'était pas le cas de l'écriture du premier. Ou comme je l'ai raconté dans les épisodes précédents, bah, je travaillais de nuit en même temps, je jonglais pour pouvoir payer mon loyer. Là, j'ai pas cette question.
T'as conscience aussi que tu pourrais t'offrir bien plus que ça.
Un sac Dior.
Ouais, On en parlait juste avant, j'aimerais bien qu'on en parle.
Ouais.
Parce que je te disais, mais comment tu pourrais faire pour t'acheter un truc qui te ferait vraiment plaisir ? Et je suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix consommer, tu vois, mais c'est quoi le truc qui te ferait kiffer ? Et tu me disais, je voudrais m'acheter, je voudrais avoir un grand dressing.
Non, une garde-robe. Une
garde-robe, pardon.
Une garde-robe. Alors non, le premier truc qui me fait kiffer, c'est le temps. Et donc bah, là, je m'offre du temps. Donc déjà, très beau cadeau à moi-même. Parce que, bah, voilà, comme tu sais, toutes les semaines que je passe à pas travailler, bah, c'est... je vais pas rentrer d'argent. Voilà, par rapport à quand j'étais salariée. Bon, je te fais pas un dessin, c'est le principe. Oui, une garde-robe. J'aimerais bien avoir des très beaux vêtements. Choisis par une personnelle chopeuse qui m'habille et qui me donne des trop beaux vêtements. Voilà.
Si vous êtes personnelle chopeuse, personnelle chopeur, vous pouvez envoyer un DM
à Maud la cible.
Sur Insta. Maud Ventura.
Très bonne cliente. Venez me proposer vos services pour choisir mes vêtements. J'ai très envie d'avoir des très beaux vêtements, mais j'ai pas envie de les choisir. Je ne sais pas faire. Je laisse ça aux autres. Je n'ai pas ce talent.
Ouais, t'as raison. Et puis passe-temps. On revient.
En tout cas, j'ai pas envie de prendre ce temps-là.
On revient délégué.
Ouais, délégué. Et toi, alors, tu kiffes ?
Ben écoute, moi j'ai appris à kiffer depuis que j'ai vendu Mademoiselle. Ouais.
Donc tu kiffais pas pendant ? Quasiment pas ? Bah,
très peu. En tout cas, les dernières années, beaucoup plus. Vraiment, j'ai pris beaucoup plus conscience de la chance que j'avais. Mais aussi parce que je suis allé en thérapie, que ma psy... elle m'a beaucoup fait travailler sur l'instant présent, sur prends le temps de respirer, prends le temps de regarder, prends le temps de kiffer, prends le temps de... Bon, en fait, tout est dans ta tête, quoi. C'est globalement ce que je disais. Et que c'est toi qui décides, en fait, si c'est le bonheur. Et il n'y a que toi pour décider si c'est le bonheur ou pas. Il n'y a que toi qui décides de voir les choses selon ta vision des choses. En tout cas, tant que tu es dans un endroit où tes besoins primaires sont respectés, quoi, tu vois. Et les dernières années, beaucoup, beaucoup plus, vraiment. Mais avant ça, pendant 10, 12, 13 ans, pas trop, hein. J'avais pas le temps, j'étais occupé, j'avais 30 ans, j'avais envie de tout construire, j'avais envie de faire en sorte que le projet... Enfin, j'en avais parlé dans les épisodes un peu précédents, mais l'aspect sacrificiel aussi, et l'aspect Mademoiselle est au-dessus de tout, et en fait, même moi, je me sacrifie, bien sûr, énorme. Et tu vois, on en reparlera un peu dans l'épisode où qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais il y a un vrai truc où je sais que j'ai construit ma vie d'aujourd'hui aussi en rapport avec le kiff, la liberté et le temps. Et j'ai cette chance aujourd'hui, tu vois, à 45 ans, d'avoir pu construire ça. Je sais que c'est une chance que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup préparé, sur laquelle j'ai beaucoup crafté, qui me permet de pouvoir faire ça aujourd'hui. Mais avant ça, ouais, ça a été dur. Mais je viens d'une famille du Nord, tu vois, où mon daron, c'est no pain, no gain, quoi, tu vois. C'est vraiment le travail, c'est dur et ça doit être dur et c'est forcément dur. Et ça, c'est un truc, c'est une conception qui est vraiment très, très compliquée à déconstruire quand on vient de là, en fait. Bah, ma famille, c'est germinal, quoi, tu vois. Même mon arrière-grand-père, il était dans les fucking mines, quoi, tu vois. Donc, ça vient de là. Mon grand-père, il était ouvrier dans les usines textiles, quoi, tu vois. Il est mort à 51 ans, tellement il a respiré des tas de saloperies qu'on n'imagine même pas, j'imagine, aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc, c'est beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse. Et en fait, je me suis rendu compte ces dernières années que j'avais hérité beaucoup de ça. Et que mon père aussi, j'ai jamais vu kiffer, tu vois. Vraiment, mon père, pour lui, le boulot, ça a toujours été... je crois qu'il avait un vrai côté... il faisait en sorte de se marrer aussi au travail, mais qu'il y avait un vrai truc de... C'est dur, le travail, tu vois. Et je l'ai vu travailler comme un damné, quoi, vraiment. Alors qu'il était salarié, quoi, tu vois. Donc, c'est très, très dur de sortir de là. Et je me souviens très bien que j'avais vu un producteur au tout début de Mademoiselle, un peu grande gueule, producteur de cinéma, machin, était là. Mais toi, tu considères que le travail, c'est dur et tout. Moi, je comprenais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il faut kiffer et tout. J'étais là, mais mec, d'où tu sors ? Enfin, tu vois, pour moi, c'était tellement lunaire comme conception. Bien sûr que le travail, c'est fait pour se faire du mal. Et pour... je rappelle, ça vient de Tripalium, qui est un instrument de torture. Donc ouais, déconstruire ça, c'est très très compliqué. Et si ça vous parle, vous êtes en train d'écouter ça et que ça vous parle, vraiment réfléchissez à ça. Vous n'êtes pas obligé d'acheter entre guillemets l'histoire que vos parents vous ont racontée et d'acheter et de prendre toute la souffrance sur vos épaules que vos aïeux ont récupérée. J'ai beaucoup travaillé sur les remercier parce que je crois que pendant quelques années j'étais plutôt en contre. J'étais plutôt en non mais en fait moi je veux pas de ça. Et aujourd'hui je crois que j'ai compris un truc, c'est que vraiment avec plein d'amour je leur dis merci. Parce que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont passés par là, quoi, tu vois. Et ça, ça n'a pas été un cheminement très simple. Et je crois que si le Fab de 30 ans m'écoutait aujourd'hui, tu vois, 15 ans plus tard, il serait là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est fou.
Et qui es-tu?
Il est fou. Qui êtes-vous? Donc ouais, work in progress.
Apprendre à kiffer. Tu vas créer un podcast qui s'appelle Histoire de kiff sur les gens qui te disent comment ils kiffent.
Ouais.
J'adore le kiff. Mais c'est vraiment, je te rejoins totalement, c'est vraiment pas si facile de savoir comment kiffer. Ça s'apprend aussi. Profiter, de mettre sur pause, surtout dans une, enfin en tout cas pour l'écriture, une industrie qui s'arrête jamais, l'industrie du livre. Où tu te dis, oh là là, déjà 1 an depuis le livre, déjà 2 ans depuis le livre, déjà 3 ans depuis le livre, déjà 4 ans, et tu vois le temps qui passe, et où tu te dis, il faut quand même vite se remettre au travail.
Est-ce que tu t'imagines devenir plus tard une sorte d'Amélie Nothomb, tu vois, où tu te dis, ok, en fait, ça devient mon travail à plein temps, et en fait, je sors un bouquin par an parce que j'ai plein d'histoires, j'ai plein de trucs à raconter. C'est un truc que tu te projettes?
Oui.
Peut-être on bouffe un peu l'épisode la vision.
C'est mais... 100%. Oui, et ben 100%.
Et ben on va pas le faire.
Je
du
vais
tout.
Pas répondre oui, non. Hop, voilà. Je brouille les pistes.
Ça sera dans l'épisode 8. Laissez-moi vous le dire. Voilà, ce sera pas tout de suite. J'ai devancé un peu l'appel. Mais oui, mais c'est comme
c'est
ça.
C'est le cliffhanger sur la vision à long terme.
Exactement.
Et l'après.
Dans le prochain épisode, la semaine prochaine, jeudi prochain, à partir de 6h du matin, on discute ensemble avec Maud de se relancer dans un nouveau projet à long terme. Puisque toi t'es en train d'écrire un deuxième roman et moi j'ai vendu ma boîte et j'ai lancé il y a 3 ans maintenant cette boîte de prod qui est en train de faire ça, voilà, les podcasts. RDV la semaine pro,
à la semaine prochaine.
Merci Maud,
merci à toi,
c'était super.
This Mother's Day, treat mom to healthy glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.